Bonsoir, comment allez-vous ? Le racisme est une vilaine chose. Nous ne sommes pas racistes à France Inter et nos auditeurs ne le sont pas non plus. C'est pas notre cam. Mais, il y a un mais, nous avons des agacements. Et ces agacements sont les cousins du racisme. Ou les frères, peut-être même les frères jumeaux, monozygotes. Moi, ce sont les retardataires qui m'insupportent. Je pourrais tuer pour 20 minutes, alors que les autres s'en fichent. Les radins ne sont pas sympathiques, alors que ce ne sont que des angoissés. D'autres trouvent que les timides sont niais, alors que je leur trouve du charme. Que les culottés sont arrogants, alors qu'ils sont courageux. Que les nouveaux riches sont vulgaires, alors qu'ils sont malins. Bref, il y a donc des gens qui ne nous ont rien fait et qu'on déteste. Personnellement, je n'en suis pas fière. Parallèlement à ça, j'ai des amis qui disent parfois des trucs horribles. Et je les aime, car je les connais depuis le CE1, où je les ai vus parfois si gentils ou tellement perdus. Peut-on aimer de vrais méchants ? Eh bien oui, parce qu'ils ne sont pas toujours comme ça et qu'on ne sait pas finalement pourquoi ils sont comme ça.
Bonjour, je m'appelle Élie, j'ai 7 ans et je voudrais savoir si les chats et les chiens peuvent s'entendre. Au revoir.
Bonsoir Élise. Joëlle Dehaas, vétérinaire comportementaliste, vous avez écrit un livre sur les chiens, tout sur la psychologie du chien, et aussi un livre sur les chats, tout sur la psychologie du chat, tous deux édités chez Odile Jacob. Que diriez-vous à Élise ?
Eh bien, j'ai rajouté dans la nouvelle édition de ces deux livres un chapitre pour l'entente entre les chiens et les chats. Parce que c'est pas évident. Ce sont deux prédateurs et donc ils ont une tendance à faire de la chasse sur plus petits qu'eux. Donc le chien a tendance à poursuivre le chat qui court, et le chat pourrait poursuivre un chien qui court, même si le chien est plus petit que lui. Et non seulement il pourrait poursuivre, mais capturer et tuer. Ça fait partie de la règle, de la norme des chiens et des chats. Maintenant, un chien peut très bien apprendre qu'un chat cohabite avec lui, que ça peut être un copain, ils peuvent même être amis et se respecter dans la maison. Mais souvent, si le chat est à l'extérieur et qu'il se met à courir, la poursuite est déclenchée par le mouvement de façon irraisonnée. Donc le chien n'arrive plus à raisonner et se dire « c'est le copain chat ». Non, le mouvement déclenche la poursuite. Et s'il n'y a pas de reconnaissance du chat, il peut aller capturer le chat et tuer le chat. Alors que 5 minutes auparavant, il était couché avec le chat à faire des câlins. Donc il y a moyen de faire s'entendre chien et chat. Ils n'ont pas tout à fait le même langage, ils n'ont pas les mêmes communications, mais ils peuvent apprendre à communiquer entre eux et à se respecter l'un l'autre. C'est plus facile dans la maison, c'est compliqué à l'extérieur.
Le chat d'instinct se méfie du chien.
Non, il y a des chats qui ont vécu avec des chiens quand ils étaient tout petits et qui pensent que tous les chiens sont sympas et donc ils pourraient aller vers l'accident.
Mais par exemple, si on remplace, docteur Joëlle Dehaas, un chat par un lapin, disons, le phénomène serait le même.
Le phénomène peut être le même, sauf que le lapin a encore plus une odeur de proie que le chat qui a une odeur de prédateur. Et donc si un chien est copain avec un chat et qu'on remplace le chat par un lapin, il n'y a pas du tout de sécurité pour le lapin. Le chien pourrait très bien aller poursuivre et tuer le lapin.
Si j'arrive à réduire un tigre, il aura une odeur de tigre. Et si j'arrive à le réduire en tout petit, faire un bonsaï de tigre, est-ce que vous pensez que le chien va lui courir après ?
Oui, il courra derrière le chat, derrière les chats mélangés de chats sauvages, des croisements. Il courrait derrière un petit tigre, oui.
Alors maintenant, quel est le conseil du vétérinaire comportementaliste pour pas qu'il s'entretue ? Qu'est-ce qu'on dit à son chien ?
Pour habituer chien et chat ensemble, il faut les mettre dans une même pièce. Il faut bloquer le chien, l'attacher avec harnais et laisse pour l'empêcher de poursuivre le chat. Il faut mettre le chat dans la même pièce pour qu'il puisse être lui libre d'éviter le chien, mais pas libre de partir de la pièce. Ils doivent rester ensemble, c'est une technique d'immersion. Le chat doit avoir des cachettes pour pouvoir se cacher, éviter le regard du chien. Une fois que tout est apaisé, que les émotions sont apaisées, que le chien se rend compte qu'il peut pas poursuivre le chat, que le chat se rend compte que le chien ne peut pas le poursuivre, tout le monde se calme, on commence à nourrir tout le monde. Et on commence à jouer avec l'un et avec l'autre. Qui font qu'ils associent le plaisir, la nourriture, la joie, avec la présence de l'autre. Et après, progressivement, on libère les deux dans la même pièce. Et on surveille qu'il n'y ait pas de poursuite et de capture.
Donc ça marche avec la récompense et pas avec l'engueulade.
Tout marche avec la récompense. Désormais, pour le bien-être des gens et des chiens et des chats, on travaille qu'en positif.
C'est noté. Vous pouvez réécouter cette méthode sur franceinter.fr à la page des petits bateaux. Les livres de Joëlle Dehaas sur les chiens et les chats sont édités chez Odile Jacob. Dans les petits bateaux, ce soir, vous avez demandé pourquoi on fait des crêpes à la chandeleur si les bébés font leurs besoins dans le ventre de leur mère et qui a inventé le nombre pi et pourquoi.
Bonjour, je m'appelle Nance, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir quand les premières équipes de police sont apparues. Oui, merci, au revoir.
5 ans, mais tu parles formidablement bien. Quand les premières équipes de police sont apparues, demande Nance Camille Chaise, vous êtes commissaire de police. Le savez-vous?
Alors, les premières équipes de police sont apparues à la fin du Moyen-Âge, sous Saint-Louis, donc vers les années 1250.
Ah, c'est si ancien que ça.
C'est si ancien que ça, et on les appelait à l'époque les chevaliers du guet. Ils étaient assistés de sergents à cheval ou à pied, et ils étaient chargés d'assurer la sécurité à Paris la nuit. C'est notamment de cette époque que date le dicton « Bonnes gens, dormez en paix », qui s'adressait donc à Paris pour la sécurité la nuit.
On dit la police montée, ils étaient à pied ou à cheval ?
Il y avait les deux à l'époque, et ça a perduré au fil des années d'avoir à la fois des policiers à cheval et à pied. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, quelques années plus tard, vers les années 1300, sont apparus les premiers commissaires, qu'on appelait commissaires examinateurs au Châtelet, et qui, eux, luttaient contre la criminalité autour de la place du Châtelet à Paris. Et ils étaient donc chargés d'assurer la sécurité de la ville. Et c'est surtout sous Louis XIV, vers les années 1670, que sont apparus les lieutenants généraux de police. Et donc c'est vraiment de là que date la police telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Et le premier lieutenant général de police s'appelait Nicolas de la Reynie. Et il était nommé par le roi pour Paris, et après ça s'est développé dans les autres grandes villes de France.
Donc ça nous mène jusqu'à la Révolution, quoi, à peu près.
Voilà, jusqu'à la Révolution. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Révolution française est née la maréchaussée, qui maintenant existe par le biais de la gendarmerie nationale, et c'est de là que date la différence entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Donc vous, les policiers, vous êtes apparus au Moyen-Âge, et les gendarmes sont apparus à la Révolution. La gendarmerie, c'est le nouveau nom de la maréchaussée.
Exactement, et la gendarmerie travaille plutôt en zone rurale et périurbaine, alors que la police, elle, est vraiment liée à la ville. D'ailleurs, dans son étymologie latine, police veut dire la cité, la ville, et elle est vraiment liée à la ville et aux quartiers les plus difficiles.
Alors, j'imagine qu'à la création, au Moyen-Âge, ils n'étaient pas si nombreux. Et maintenant, est-ce qu'on sait à peu près, Camille Chaise, combien il y a de commissaires de police, par exemple?
Alors, les commissaires de police, il y en a environ 2000 aujourd'hui. Et les officiers de police, et notamment les lieutenants de police, donc qui datent de Louis XIV, il y en a environ 9000 aujourd'hui.
Sur tout le territoire?
Sur tout le territoire français, exactement.
C'est beaucoup, quand même, hein?
Alors, c'est beaucoup, mais la police nationale, c'est 150 000 personnes. Donc, les officiers et les commissaires sont un petit nombre par rapport aux gardiens de la paix qui sont majoritaires dans la police nationale.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Je goûte amarelinha na linha, não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Tonta de tanto chorar, te choro malacoia na que vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La la ya la.
C'est beau, elles seront toutes les deux le 5 février à Villejuif, en banlieue parisienne, Dom La Nenia, qui est violoncelliste et chanteuse, et Rosemary Stanley, qui parle de leur chanson en disant « Notre répertoire vient de nos souvenirs d'enfance. On pioche dans les chansons qui nous ont marquées et qu'écoutaient nos parents. » C'est joli, non ?
Les petits bateaux sur France Inter.
Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes le 2 février 2020. Ça fait 2-2-20-20.
Je m'appelle Simon, j'ai 11 ans et je voudrais savoir qui a inventé le nombre pi, comment et pourquoi.
Simon, tu ne dois pas être le seul à te poser cette question, Simon, que nous soumettons à Michael Launay, mathématicien, normalien, écrivain du grand roman des maths édité chez Flammarion et créateur de la chaîne Micmath sur YouTube.
Oui, c'est une question qui est très intéressante. Le nombre pi, c'est un nombre star en mathématiques. Tout le monde le connaît et il est utile pour plein de choses différentes. Alors, on ne peut pas vraiment dire
Pour plein de choses, pensez qu'il serve à calculer la circonférence du cercle, ce qui est déjà pas mal.
Non, justement, c'est aussi pour ça qu'il est fascinant, c'est qu'il apparaît dans plein de domaines différents des mathématiques. Et alors, on ne peut pas du coup dater précisément qui a inventé le nombre pi et pourquoi, parce que c'est quelque chose qui se fait de façon assez progressive, mais effectivement, c'est avec la géométrie du cercle qu'il apparaît historiquement. On se demande, si on a un cercle ayant un diamètre donné, combien mesure le périmètre de ce cercle. Par exemple, dans l'un des plus grands livres mathématiques de l'Antiquité, qui est un livre qui a été écrit en Chine, qui s'appelle « Les 9 chapitres sur l'art chinois », on trouve des problèmes dans lesquels il est question, par exemple, de paysans qui ont des champs qui font 10 unités de diamètre et 30 unités de périmètre. Donc dans ce cas-là, on a le périmètre qui est 3 fois plus grand que le diamètre, de 30 à 10. Seulement, petit à petit, les mathématiciens qui ont étudié ça se sont rendus compte que ce n'était pas tout à fait exact. Quand on a un cercle qui a un diamètre de 10, eh bien, son périmètre est un peu plus grand que 30. Ça fait environ 31, puis plus précisément 31,4. Et puis, en continuant d'étudier ça, eh bien, ils se sont rendus compte que dans tous les cercles, eh bien, c'est toujours le même nombre par lequel il faut multiplier le diamètre pour avoir le périmètre. Et ce nombre, il vaut environ 3,14, puis plus précisément 3,14,15, puis plus précisément 3,14,15,92. Et quand on est à ce niveau de détail, quand on est au sixième chiffre après la virgule, ça n'a plus aucun intérêt pratique. C'est-à-dire qu'un paysan n'a pas besoin de mesurer le périmètre de son champ au millimètre près.
Évidemment.
Mais les mathématiciens ont été intrigués par ce défi, c'est un défi intellectuel, et ont voulu savoir si on pouvait trouver la valeur exacte de ce nombre. Alors, un des premiers à avoir vraiment étudié très précisément ce nombre et avoir écrit des traités sur ce nombre, c'est le mathématicien grec Archimède, qui vivait au IIIe siècle avant notre ère à Syracuse, en Sicile. Il était déjà pas loin du tout, sachant qu'évidemment, il faisait tous ses calculs à la main. Il n'avait pas de calculatrice à l'époque, donc il fallait vraiment être très courageux pour se lancer dans de tels calculs. Et puis après, eh bien, il y a eu une quête des décimales qui, au cours de l'histoire, s'est lancée. Aujourd'hui, on connaît des milliards de décimales du nombre pi grâce aux ordinateurs qui calculent ça très vite. Et puis, ce qui est fascinant avec le nombre pi, c'est qu'effectivement, non seulement il sert à calculer le périmètre d'un cercle, mais il se retrouve dans plein d'autres domaines et il permet de jeter un lien entre plein de domaines des mathématiques. Par exemple, il y a un mathématicien qui s'appelait Buffon qui a un jour étudié un problème dans lequel il faisait intervenir le hasard, donc on était dans la théorie des probabilités. On regarde un parquet qui est
notre
formé...
Buffon,
oui, c'était le même qui était aussi naturaliste, effectivement, voilà, qui s'intéressait aussi un peu à ses heures perdues aux mathématiques, même si ce n'était pas son activité principale.
D'accord.
Et alors, il avait un parquet avec différentes lattes qui étaient parallèles les unes aux autres. Et il s'est dit, si je lance une aiguille dont la taille est égale à la largeur des lattes sur ce parquet, eh bien, il y a deux options possibles. Soit l'aiguille va se retrouver sur une seule latte, soit elle va se retrouver à cheval sur deux lattes. Et alors, il se demande quelle est la probabilité. Est-ce qu'il y a une chance sur deux? Est-ce qu'il y a deux chances sur trois pour que ça on se retrouve dans une situation ou dans l'autre? Il a fait les calculs et s'est rendu compte que la probabilité pour qu'on soit à cheval sur deux lattes, c'était deux chances sur pi.
Deux chances sur pi?
Deux chances sur pi, exactement. Et alors du coup, quand on découvre ça, on se demande, mais que vient faire pi ici, puisque ce problème n'a l'air d'avoir rien à voir avec un cercle. Et donc Buffon s'est posé la question et a fait une démonstration et a effectivement prouvé que c'était bien ce même nombre qui apparaît dans son problème et dans la mesure du cercle. Et donc c'est toujours assez formidable quand on trouve ce genre de lien, parce que ça permet de se rendre compte que des problèmes qui ont l'air n'avoir rien à voir l'un avec l'autre, en fait, ont des liens cachés, et on peut établir des passerelles entre différentes disciplines des mathématiques grâce à des nombres comme pi. Et pi apparaît aussi en arithmétique, en algèbre, en analyse. Il apparaît dans quasiment tous les domaines des mathématiques, et donc c'est un nombre qui est formidable pour créer du lien entre les différents domaines des mathématiques.
Vous voyez, hein, comme quoi il ne faut pas juger sur l'apparence, parce que quand on voit un gars qui lance des aiguilles sur des lames de parquet pour voir où elles vont retomber, on peut se dire quand même il est gentil, mais il est un peu bizarre, un peu spécial, un peu niais, il ferait mieux de le cirer ce parquet. Eh ben non, ça donne un grand homme. Allez, passons de pi à pipi.
Bonjour, je m'appelle Rebecca, j'ai 4 ans et demi, je veux savoir si les bébés dans le ventre de leur maman font caca et pipi. Merci, au revoir.
J'espère bien que non. Chantal Birman, vous êtes sage-femme.
Alors, les bébés font pipi dans le ventre de leur maman et ils boivent le liquide amniotique qui est renouvelé en gros à peu près tous les 24 heures au niveau d'un cycle de renouvellement de liquide amniotique.
Il est renouvelé, mais il va où?
Alors, il se diffuse à travers les parois des membranes et il repart dans la circulation générale au niveau de la mère.
Ah donc, c'est pas étanche le placenta?
Non, ça circule. Il y a du circulation de liquide amniotique. D'accord. Et au niveau du placenta, il y a aussi la circulation d'oxygène.
Donc, pour leur répondre, il boit, donc il fait pipi, mais il mange pas.
Alors, il ne mange pas. Et donc, pour le caca, il est possible qu'un bébé fasse caca. Mais là, par contre, c'est un signe qui est péjoratif au niveau de sa santé. Alors, je vous explique, quand un bébé manque d'oxygène, il va privilégier l'oxygène qu'il reçoit de la part de sa mère vers ses organes nobles, c'est-à-dire vers son cœur et vers son cerveau. Ça veut dire qu'il y a d'autres organes qui vont manquer d'oxygène, entre autres les intestins. Et quand les intestins manquent d'oxygène, ils se contractent. Et à ce moment-là, le méconium, qui est les premières selles qu'il y a dans l'intestin du bébé, va sortir dans le liquide amniotique. Et c'est ce qu'on va appeler un liquide teinté. Donc, le liquide teinté est le signe que le bébé a manqué d'oxygène à un moment donné. C'est donc le signe que ce bébé-là, il faut faire attention parce qu'il est fragile. Il a eu un moment d'hypoxie. Donc, ce bébé-là, c'est forcé qu'on le suive sous monitoring pendant tout le travail.
Hypoxie, c'est manque d'oxygène.
Hypoxie, c'est le manque d'oxygène, oui.
C'est intéressant, c'est un petit peu pour ça qu'on a froid aux mains. C'est le même principe, parce que la chaleur va aux organes principaux. On n'a pas froid au cœur, on n'a pas froid au foie, on n'a pas froid aux poumons, on a froid aux doigts. Parce qu'on peut vivre avec des doigts en moins, on ne peut pas vivre avec un cœur en moins.
Thank you. Préférez-vous les Beatles ou les Rolling Stones? Quelle étrange question, c'est le dernier qui a chanté qui a raison. Alors ce soir, les Rolling Stones.
Bonjour, je m'appelle Suzanne, j'ai 11 ans. Et j'aimerais savoir pourquoi on fait des crêpes à la Chandeleur. Au revoir.
Bonjour Suzanne. Alors, l'origine de la crêpe à la Chandeleur est la suivante. Le terme Chandeleur vient des chandelles, qui étaient des cierges bénis, qui étaient portés en procession à Rome, lors de la présentation du Christ au Temple et lors de la purification de la Sainte Vierge. Alors, pourquoi les fait-on sauter? Ben, tout simplement parce qu'il y a une coutume en Bretagne qui est la suivante. Cette coutume consiste à mettre une pièce de monnaie dans une main et de faire sauter la crêpe. Et si par bonheur, la crêpe retombe correctement dans la poêle, eh bien on s'attirera chance, bonheur et richesse pendant tout le restant de l'année.
Alors, Denis Bertrand, vous êtes maître crêpier, il faut que vous nous donniez des conseils pour faire sauter cette crêpe.
Oui, alors, première chose, d'abord la poêle. Bon, il est préférable d'utiliser une poêle avec un revêtement anti-adhésif. Mmh. Dans la pâte à crêpes, il y a du beurre dans sa composition, donc il n'est pas nécessaire de beurrer à chaque fois la poêle. La poêle doit être chaude, mais sans excès. Donc, on met la pâte à l'aide d'une louche dans la poêle, que l'on remue dans tous les sens pour que la pâte s'étale bien. Ensuite, on la cuit à peu près 1 minute et demie sur le premier côté.
Est-ce qu'on la décolle pendant qu'elle cuit? Est-ce qu'on se brûle les doigts pour la décoller?
Non. Avec le beurre dans la pâte et le revêtement anti-adhésif, elle se décolle toute seule.
Qu'est-ce que vous mettez dans la pâte?
Alors, pour faire à peu près 35 à 40 crêpes, il faut... Oui, ça fait beaucoup, mais en famille, ça va vite, hein. Ça va vite. Donc, il faut 1 kg de farine, il faut 6 œufs, il faut 400 g de sucre en poudre, 20 g de sucre vanillé, 20 g de beurre fondu, 20 g de sel. Et bien évidemment, du lait, de préférence du lait entier, 2 litres à 2 litres, un quart de lait. Alors, la petite truc, pour éviter des grumeaux, utilisez un fouet, pas une cuillère en bois. Et avec un fouet, on commence à mélanger peu à peu. Et au fur et à mesure que la pâte devient épaisse, on ajoute le lait par petite quantité.
Dites-moi, Denis Bertrand, des crêpes, on en mange tout le temps, bien entendu, mais la Chandeleur, c'est quand exactement?
Alors, c'est tous les ans, le 2 février.
Et juste le 2 février?
Et la période de la Chandeleur va jusqu'au Mardi Gras, au Carnaval.
Denis Bertrand a fait des crêpes pendant 10 ans pour un restaurant étoilé Michelin, s'il vous plaît. Et puis, il a cofondé l'école Maître Crêpier de Maure de Bretagne. Il nous a bien mis l'eau à la bouche. Avant de vous quitter, je vous donne le numéro de notre répondeur, 01 56 40 43 57. Ces petits bateaux sont à réécouter par franceinter.fr. Vous pouvez également venir faire un tour sur notre site. Par ordre alphabétique, Jean-Baptiste Audibert s'est occupé de la programmation musicale. Alix Barrois s'est occupé de la prise de son. Noël Bréham l'a animé. Marjorie Devoucoux l'a réalisé. Là, je ne me suis pas trompée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30 et je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.